Nous allons commencer d'abord par la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin tu as parlé encore une fois comme tu le fais, comme d'habitude. Tu as déjà délivré ton message pour l'Église ce matin, à titre individuel et à titre collectif. Fais en sorte, Seigneur, que ce que tu as dit ce matin s'écrive dans notre cœur, nous accompagne tous les jours, durant toute cette semaine, et que les paroles vivantes que nous avons reçues par les bouches des uns et des autres apportent la vie, la transformation. Nous fasse grandir dans la communion avec toi et dans nos diversités, différentes cultures, différentes langues, différentes origines, tu nous montres que nous sommes un avec toi. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est que tu nous as unis dans ta mort et dans ta résurrection. Merci Seigneur pour ce privilège d'être chrétien. Merci pour ce privilège d'ici en France, de te découvrir, de te rencontrer. Je te prie d'accompagner les paroles que nous allons être partagées ce matin et que tu enlèves tout ce qui ne vient pas de l'homme, mais que mes frères et sœurs ne gardent ce qui vient de toi pour l'avancement de ton royaume. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Ce matin, nous allons continuer notre étude, notre exploration, notre voyage à travers l'évangile de Marc. Et nous sommes dans le chapitre 10. Et nous allons évoquer ensemble les versets 1 à 12. Mais je tiens juste à rappeler ce matin que j'étais ravi, très heureux, en arrivant à l'église, d'être accueilli par une compatriote africaine dans ma langue maternelle, en me disant « Assalamu alaikum ». Merci Emilia pour ces paroles qui veulent dire tout simplement que la paix soit sur vous. Et en général, quand on dit « Salam alaikum », que la paix soit sur vous, on répond « Wa alaykum salam », que la paix soit sur vous aussi. Eh bien, je vais le dire en arabe, vous me répondez. Assalamu alaykum.
Alaykum assalam.
Voilà. Eh bien, c'est la paix, ce n'est pas une paix humaine, c'est une paix du Seigneur, et cette paix nous accompagne. Je vais laisser Zach lire les passages dont il est question ce matin. Donc, Marc, chapitre 10, versets 1 à 12.
Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. »
Quel message dur! À premier abord, quand on le lit, oula, on regarde à gauche, à droite, et on essaie d'esquiver. Ce sont les paroles du Seigneur. C'est un message que je devais donner il y a plus de 3 semaines, mais j'ai pas pu venir être parmi vous. Et bien, c'est aujourd'hui que je le partage avec vous. Dans Marc 9, ce qui précède, j'avais évoqué dans le chapitre 9, les versets 30 à 50. Dans Marc 9, 30-50, nous avons vu que Jésus conduit ses disciples de la Galilée vers Jérusalem. Vous allez voir, tout est lié. Ce déplacement n'est pas seulement géographique. Souvent, on a tendance à lire la Bible d'une manière historique. Je pense que quand on avance dans la vie chrétienne, on apprend à lire la Bible autrement. La Bible nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. À travers les mots, à travers la lettre, en s'appuyant sur la Bible, on a fait des guerres, on a exécuté. C'est-à-dire qu'on peut faire lire à la Bible ce qu'on a envie te dire. Mais quand on laisse l'Esprit de Dieu nous parler, on découvre une autre réalité qui nous dépasse. C'est pourquoi je vous propose ce matin une lecture qui dépasse la lettre. C'est-à-dire Jésus, quand il est au bord de le mariage, il s'intéresse pas seulement à notre vie quotidienne. Parce que le Seigneur, quand il parle au niveau spirituel. Il parle au niveau de l'éternité. Dans Marc 9, 30, 50, avant d'aborder notre passage, il est question d'un déplacement entre la Galilée et Jérusalem. Et vous savez très bien tout ce que fait le Seigneur a un sens. Y compris ses déplacements, y compris ses gestes, y compris son regard. Tout ce qu'il fait a un sens spirituel pour nous, et c'est ça qui compte pour le chrétien. Un jour, on va tous disparaître. Qu'est-ce qui restera de nous? C'est ce qui est destiné à l'éternité. Pas notre corps. Pas ce qui est charnel. Pas ce qui est de ce monde, il va disparaître. C'est pourquoi le Seigneur s'adresse à quelque chose qui est éternel en nous. Ce déplacement entre la Galilée et Jérusalem n'est pas seulement géographique. Il est profondément spirituel. Jésus y révèle que la vie chrétienne est un chemin de transformation. Notre vie chrétienne se situe entre la Galilée et Jérusalem. Toute notre vie chrétienne, ce sera entre la Galilée et Jérusalem. Je parle au niveau spirituel, bien évidemment. Jésus y révèle que la vie chrétienne est un chemin de transformation, de métamorphose quotidienne, de mort à soi-même. C'est un chemin de renoncement, où l'ego, la défense de ses droits, la recherche de grandeur et les compromis avec le péché doivent être crucifiés afin que la vie de l'esprit puisse naître progressivement. C'est le chemin naturel de tout chrétien. Mais Jésus ne s'arrête pas à une transformation intérieure, abstraite, théorique. Ce qu'il a enseigné en Marc 9 au niveau du cœur, il va maintenant l'appliquer à la vie concrète et rien de tel que de l'appliquer dans la vie conjugale. C'est pourquoi Marc 10 ne commence pas un nouveau thème, pas du tout. Il poursuit le même enseignement sur le même chemin. Vers Jérusalem. Et vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem? La croix. C'est-à-dire notre quotidien doit être toujours un chemin vers la croix. Et de cette croix, nous nous déposons pour que la vie jaillit. Nous mourons à nous-mêmes pour que la vie du Christ jaillit en nous. Jésus quitte la Galilée, se rend en Judée, au-delà du Jourdain. C'est un sens, encore une fois. Quand il dit au-delà du Jourdain, c'est un sens. Que veut dire? Par là, le Seigneur, quand il évoque le Jourdain. Au-delà du Jourdain, le Seigneur continue à enseigner. Ce détail est essentiel. Le Jourdain n'est pas un simple fleuve. Il est un lieu de passage, un lieu de transition spirituelle. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, c'est le fleuve que le peuple d'Israël a dû traverser pour rentrer dans la terre promise. Je vous invite à lire le chapitre 3 de Josué. Cette traversée est différente de celle de la mer Rouge. À la mer Rouge, Dieu agit seul. Quand le peuple hébreu a traversé la mer Rouge, ils étaient spectateurs de ce que Dieu a fait pour eux. La mer Rouge s'ouvre. Le peuple passe à sec. Les ennemis sont engloutis. Cela représente le salut par la grâce. L'œuvre accomplie par Dieu sans participation humaine. Ils n'ont rien fait. La mer s'est ouverte devant eux. Spirituellement, la mer Rouge évoque la croix du Christ pour tous. Justification, délivrance et pardon. Mais au Jourdain, autre chose s'est passée. Au Jourdain, le fleuve déborde. Les prêtres doivent entrer les premiers dans l'eau. Il faut poser le pied dans le fleuve. C'est un acte de obéissance volontaire. Où le peuple de Dieu n'est pas spectateur, il est acteur. Le Jourdain marque la fin du désert, la fin de l'errance, l'entrée dans la maturité et l'héritage. Spirituellement, le Jourdain représente le moment où la foi devient engagement, où la grâce reçue devient grâce vécue, où l'appel devient obéissance. Le Jourdain représente la croix du disciple. Le Jourdain représente notre croix, chacun de nous, que nous portons pour suivre Jésus. C'est le lieu de renoncement, de la mort à soi, le lieu où l'on porte sa croix. Rappelons-nous, ce n'est pas Moïse qui fait passer le Jourdain, c'est Josué. Et Josué, tout simplement, étymologiquement, en hébreu, veut dire Yeshua, veut dire Jésus. C'est le même nom. C'est Josué, c'est Jésus qui fait entrer le peuple dans la terre promise. Moïse représente la loi. Josué représente le passage, le chemin de la grâce. Moïse conduit jusqu'au seuil. Josué fait entrer. C'est dans ce contexte que les pharisiens viennent interroger Jésus. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? La question, comme vous voyez, elle est juridique. Elle relève du domaine de la loi. Cette question cherche une permission, une limite, une autorisation. Les pharisiens se réfèrent à Moïse. Moïse a permis d'écrire un acte de répudiation. Autrement dit, la loi l'autorise. Mais Jésus répond, étonnamment répond, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce commandement. » Le problème n'est pas la loi. Le problème n'est pas la règle. Le problème, c'est le cœur, mes frères et sœurs. Jésus est en train de rappeler, le problème, ce n'est pas la loi est sainte, mais le problème, c'est notre cœur. Le péché, dans la perspective biblique, n'est pas seulement un acte isolé. Il est une séparation, une dureté, une fermeture qui rompt la communion avec Dieu et attriste l'Esprit Saint. La loi peut constater le péché. La loi montre le péché. La loi peut même l'encadrer, si vous voulez. Mais la loi ne guérit jamais le cœur. Elle ne transforme pas l'homme intérieur. Voilà pourquoi Moïse ne fait pas passer le Jourdain. Jésus ne répond pas en législateur, en spécialiste de la loi, en théologien. Pas du tout. Il répond en révélateur du cœur de Dieu. Il ne demande pas qu'est-ce qui est permis. Il demande qu'est-ce que Dieu a voulu au commencement. Par cette question, il ramène les pharisiens à l'origine de l'humanité. Et il déclare, au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Voilà la réponse que Jésus a donnée à cette question, je dirais juridique. Jésus remonte avant la chute. Avant même qu'Adam et Ève chutent, il leur parle de cette grâce. Jésus remonte avant la chute, avant la loi, avant la dureté du cœur. Il part du projet originel de Dieu. Avant le péché, il y a le don. Avant l'interdit, il y a la grâce. Le mariage n'est pas d'abord une obligation morale. Il est un don, une grâce, une participation à l'amour fidèle de Dieu. Les deux deviendront une seule chair, signifie une unité profonde, un don total, une fidélité enracinée dans la grâce. Dans toute la Bible, l'union de l'homme et de la femme reflète une réalité plus grande. L'alliance entre Dieu et son peuple. L'union entre le Christ et l'Église. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans Éphésiens 5, versets 31 et 32. Je vous lis ce passage qui nous parle de ce mystère du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Écoutez bien la suite. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Le mot mystère désigne une réalité cachée dans le dessein de Dieu et maintenant révélée en Christ. Le mariage est un signe visible d'une réalité invisible. L'amour fidèle du Christ pour son Église. Voilà le message visible du mariage aujourd'hui et de tout le temps. Lorsque Jésus dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas », il ne parle pas seulement d'un lien humain que nous voulons juste limiter. Il parle d'une alliance que Dieu lui-même a scellée. Mais sans la croix, mes frères et sœurs, ce texte devient écrasant. Si l'on réduit Marc 10 à une exigence morale, il devient insupportable. On se condamnera tous les uns les autres. Mais si on le relie à la croix, il devient un appel à vivre dans la grâce qui transforme. Je vous invite, mes frères et sœurs, à lire encore, j'insiste, je l'ai répété plusieurs fois, à lire l'écrit de Luther sur la grâce et sur la liberté chrétienne. Bonhoeffer sur la grâce qui coûte. Et vous découvrirez que si nous sommes chrétiens, et moi le premier, je suis chrétien, c'est pas par la loi, parce que j'ai découvert la grâce. La croix du Christ révèle l'amour fidèle jusqu'au bout. Elle donne la puissance de l'esprit. Elle rend possible la sanctification progressive. La fidélité conjugale implique renoncer à soi, pardonner, persévérer, aimer, même dans l'épreuve. Cela dépasse les forces humaines. Oui, c'est surhumain. Le mariage chrétien n'est pas un héroïsme humain. Il est une dépendance de la grâce. Le mariage n'a de sens si on découvre la grâce. Et on découvre la grâce de l'union entre le Christ et son Église. C'est dans le foyer que cette réalité devient concrète. À l'Église, nous pouvons paraître spirituels. Au foyer, le vrai cœur apparaît. Le conjoint voit nos impatiences, nos incohérences, nos blessures non guéries, et c'est précisément là que la croix agit. Dieu utilise le mariage pour briser l'orgueil, révéler l'égoïsme, purifier l'amour et apprendre l'humilité. Mes frères et sœurs, ce que nous appelons des fois difficulté conjugale devient un outil de sanctification. Chaque tension devient une invitation à mourir à soi. Chaque désaccord dans le foyer devient une occasion de laisser Christ vivre en nous. De même dans l'Église, une critique devient une école d'humilité. Une incompréhension devient un appel à la patience. Une épreuve collective devient une opportunité de dépendance accrue de Dieu. Mais il faut préciser, mes frères et sœurs, porter sa croix ne signifie jamais accepter la violence, l'abus ou l'injustice. La croix n'est pas une justification du mal. Elle est toujours liée à la vérité, à la dignité et à la justice. Dans son cœur, dans son foyer, dans l'Église et dans la société même, l'épreuve devient un accélérateur du processus de maturation spirituelle. Aucune épreuve n'est neutre. Elle peut nous endurcir comme elle peut nous transformer. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul parle de l'homme fait, de l'homme mûr qui grandit vers la stature de Christ. Cette maturité se résume en une formule simple. Moins de moi, plus du Seigneur. Paul écrit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi » dans Galates 2:20. Cette parole est le fruit d'un long passage par la croix. Sans croix, il n'y a pas de véritable vie chrétienne. Sans croix, on peut vivre une religion chrétienne, mais sans la vie. Le processus est parfois douloureux, mais il produit un fruit durable. Les souffrances présentes produisent un poids éternel de gloire. L'épreuve n'est pas la finalité, elle est un passage vers la libération intérieure. Marc 10 nous montre que la mort à soi ne se vit pas seulement dans des actes spectaculaires, mais dans la fidélité quotidienne, dans la simplicité de la vie chrétienne. Jésus ne nie pas la fragilité humaine, mais il refuse de l'ériger en norme. Sa parole est exigeante parce qu'elle touche au renoncement, à la vérité du cœur, à la fidélité enracinée dans la grâce. Mes frères et sœurs, ce passage est très parlant. Dans Marc 9, Jésus nous a montré ce qui doit mourir en nous. Il a mis en lumière notre orgueil, notre désir d'être les premiers, notre tendance à défendre nos droits, notre difficulté à renoncer à nous-mêmes. Il nous a enseigné que suivre le Seigneur implique une véritable mort à soi, une mort quotidienne, un renoncement intérieur, un abandon de ce qui nous sépare de Dieu. Mais dans Marc 10, dont il est question aujourd'hui, Jésus va plus loin encore. Il nous montre non seulement ce qui doit mourir, mais où cette mort à soi doit se vivre concrètement. Elle ne se vit pas seulement dans des intentions spirituelles, dans des élans émotionnels. Elle se vit dans la durée, dans la fidélité quotidienne et dans l'alliance. Elle se vit dans le mariage, dans les relations, dans les engagements pris devant Dieu. Elle se vit chaque fois que nous choisissons la vérité plutôt que le compromis. La fidélité plutôt que la fuite, l'amour plutôt que l'orgueil. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à croire que Jésus est mort sur la croix. Le diable le croit aussi. Elle consiste à laisser cette croix transformer notre manière de vivre. Il ne suffit pas de contempler la croix. Il faut apprendre à vivre selon la croix. Vivre selon la croix, c'est accepter que notre ego diminue. C'est renoncer à vouloir toujours avoir raison. C'est cesser de nous placer au centre. Et lorsque l'ego diminue, alors Christ peut prendre davantage de place en nous. Lorsque l'orgueil recule, l'amour devient plus pur, plus patient, plus vrai. Lorsque nous accueillons réellement la grâce de Dieu, alors la fidélité devient possible. Voilà le sujet que le Seigneur évoque. Alors la fidélité devient possible, non pas par notre force, mais par l'action du Seigneur en nous. Frères et sœurs, ne restons pas en Galilée. Je ne suis pas appelé à rester en Galilée, c'est-à-dire au stade de l'enthousiasme des débuts. Ne restons pas seulement dans l'appel reçu, acceptant de passer par le Jourdain, ce lieu de décision et d'engagement. Acceptons que la croix ne soit pas seulement un symbole que nous admirons, mais une réalité spirituelle que nous portons dans notre vie quotidienne. Acceptons que le mariage, que la vie d'église, que les épreuves que nous traversons deviennent des lieux de sanctification. Ce sont souvent là que Dieu travaille le plus profondément en nous. C'est là que notre caractère est façonné. C'est là que nous apprenons l'humilité, le pardon, la patience et la persévérance. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avancer ensemble dans la vérité et dans l'amour, soutenus les uns par les autres et conduits par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Amen.